Chapitre 5. Le bonhomme Servien, en veste de travail, s'approcha du lit, puis s'en éloyant sur la pointe des pieds, « Il dort, monsieur Garneret, il dort. Le médecin nous dit qu'il est sauvé. C'est un bien bon médecin. D'ailleurs, vous le savez, puisque c'est votre ami et que c'est vous qui nous l'avez amené. Vous nous avez sauvé, monsieur Garneret. » Et le relieur détourna la tête pour s'essuyer les yeux, alla vers la fenêtre, souleva le rideau et regarda la rue toute claire. Le beau temps va le remettre tout à fait, mais nous avons passé 6 semaines affreuses. Je n'ai jamais désespéré parce qu'il n'est pas naturel qu'un père désespère de la vie de son fils. Pourtant, vous savez, monsieur Garneret, qu'il a été bien malade. Les voisins ont été très bons pour nous, mais on n'avait pas ses aises dans cette maudite cave. Pensez, monsieur Garneret, qu'il a fallu lui tenir pendant 20 jours le front dans la glace. Oui, c'est le traitement de la méningite. Le rallieur se rapprocha de Garneret. Il se grattait l'oreille, il se frottait le front, il se caressait le menton. Il était embarrassé. « Mon pauvre Jean, dit-il enfin, il est amoureux. Il a une passion, je l'ai compris par tout ce qu'il disait dans son délire. J'ai pas l'habitude de m'occuper de ce qui me regarde pas, mais comme je vois que la chose est grave, je vous demanderai dans son intérêt de me la dire si vous la savez. » Garneret haussa les épaules. « Oh, une actrice, une tragédienne, bon. » Le relieur réfléchit un instant, puis « Voyez-vous, monsieur Garneret, bien que j'ai agi pour le mieux à l'égard de mon pauvre garçon, je me fais des reproches. Je me dis que l'instruction que je lui ai donnée l'a détourné du travail et de la vie pratique. Une tragédienne, dites-vous? Ces goûts-là doivent se prendre dans les collèges. Du temps qu'il allait en classe, je prenais ses cahiers dès qu'il était au lit et je lisais tout ce qui était en français. » C'était pour moi une manière de me rendre compte de son travail, parce que tout ignorant qu'on est, on voit bien, avec un peu d'instinct, ce qui est fait proprement et ce qui est galopé. Eh bien, monsieur Garneret, je fus effrayé de trouver dans cette voix tant de pensées exaltées. Il y en avait de très belles, sans doute, et j'ai recopié sur un papier celles qui m'ont le plus frappé, mais je me disais... Tous ces discours, toutes ces histoires prises dans les livres des anciens romains vont mettre en effervescence la tête de ce garçon, il ne saura jamais la vérité des choses. J'avais raison, mon bon monsieur Garneret, et c'est le collège, voyez-vous, qui l'a rendu amoureux d'une tragédienne. Jean Servien se souleva sur son lit. « Oh, c'est toi, Garneret, oh, je suis bien content de te voir. » Puis il tendit l'oreille. « Qu'est-ce qu'on entend donc ?» Garneret lui répondit que c'était le bon Valérien qui tirait sur les remparts. On était en pleine commune. « Vive la commune !» s'écria Jean Servien. Et il posa, en souriant, sa tête sur l'oreiller. Il était guéri et faisait un livre à la main, une douce promenade dans le jardin du Luxembourg. Il ressentait cet égoïsme innocent, cette pitié de soi-même que donne la convalescence. De sa vie antérieure, il ne voulait rappeler que le souvenir d'un visage charmant penché sur le sien et d'une voix plus belle que la plus belle des musiques, murmurant « Vous m'aimez donc encore ?» Oh, certes, en ce moment, il ne répondrait pas comme dans l'escalier douloureux « « Je ne vous aime plus !» il répondrait des yeux et des lèvres et en ouvrant les bras. « Je vous aimerai toujours !» Pourtant, l'odieuse figure de l'autre repassait par moments dans sa mémoire et le faisait souffrir. Tout à coup, ses yeux furent surpris par un spectacle étrange. À 2 pas de lui, dans le jardin, devant l'orangerie, était M. Tudesco, ample et fleuri, comme à son ordinaire, mais combien différent par le costume. Il portait une vareuse de garde nationale, couverte d'aiguillettes étincelantes. De sa ceinture rouge sortaient deux crosses de pistolet. Il était coiffé d'un képi à 5 gallons d'or. Debout, au milieu d'un groupe de femmes et d'enfants, il regardait le ciel avec l'attendrissement dont ses petits yeux verts étaient capables. Toute sa personne exprimait la puissance et la bonté. Il tenait sa main droite étendue sur la tête d'un petit garçon et lui adressait ce discours. « Jeune citoyen, orgueil de ta mère, ornement des promenades publiques, espoir de la commune, je t'adresse les paroles du proscrit et je dis « Jeune citoyen, le 18 mars t'a sauvé de l'esclavage, tu graveras dans ton cœur cette date immortelle. » Je dis « Nous avons souffert et combattu pour toi, fils des désespérés, tu seras un homme libre. » Ayant ainsi parlé, il remit l'enfant à sa mère et sourit aux citoyennes qui admiraient son éloquence, sa ceinture rouge, ses galons d'or et sa verte vieillesse. Bien qu'il fût 3 heures de l'après-midi, il n'avait pas bu plus que sa capacité et il marchait en maître sur le sable des allées au milieu du peuple. Jean alla au-devant de lui. Jean avait quelque tendresse pour ce vieil homme. M. Tudesco lui prit la main avec une bonté paternelle et s'écria « Oh, je suis heureux de voir mon cher disciple, le fils de mon intelligence. Monsieur Servien, contemplez ce spectacle et ne l'oubliez jamais, c'est celui d'un peuple libre. » En effet, les citoyens et les citoyennes marchaient sur les gazons, cueillaient les fleurs des parterres et cassaient les branches des arbres. Les deux amis voulurent s'asseoir sur un banc, mais tous étaient occupés par des fédérés de tous grades qui ronflaient en tas. C'est pourquoi M. Tudesco pensa qu'il valait mieux aller au café. Ils trouvèrent un sur la place de l'Odéon et où M. Tudesco put étaler son éclatant uniforme. « Je suis ingénieur, dit-il devant Sobitaire. « Je suis ingénieur au service de la commune avec le grade de colonel. » Jean trouvait cela pourtant bien extraordinaire. M. Tudesco eut beau lui conter ses conférences chez le distillateur avec les chefs de la commune, il lui semblait étrange que le Tudesco qu'il connaissait fût devenu quelque part ingénieur et colonel. Mais c'était un fait. M. Tudesco, lui, ne s'étonnait pas. « La science, disait-il, la science, les études, quelle puissance, savoir, c'est pouvoir. Pour vaincre les satellites du despotisme, il faut la science. C'est pourquoi je suis ingénieur avec le grade de colonel. » Et M. Tudesco raconta qu'il était spécialement préposé à la recherche des souterrains que les suppôts de la tyrannie avaient creusés sous la capitale à travers les deux bras de la Seine, pour transporter des armes. À la tête d'une escouade de terrassiers, il visitait les palais, les hôpitaux, les casernes et les couvents, défonçant les caves et crevant les tuyaux d'égout. La science, la science! Il visitait aussi les cryptes des églises pour y découvrir les vestiges de la lubricité des prêtres. Les études, les études! Après le bitter, il y eut l'absinthe et le colonel Tudesco proposa à Servia un poste avantageux à la délégation des affaires étrangères. Mais Jean secoua la tête, il était fatigué et n'avait pas confiance. « Je vois ce que c'est !» s'écria le colonel en lui tapant sur l'épaule. « Vous êtes jeune et amoureux. Il y a deux génies qui s'ouvrent tour à tour. » Leurs inspirations irrésistibles à l'oreille des humains, l'amour et l'ambition. L'amour parle le premier, et vous l'écoutez encore, mon jeune ami. » Jean, qui avait bu de l'absinthe, avoua qu'il aimait plus que jamais et qu'il était jaloux. Il raconta l'aventure de l'escalier et se répandit en invectives contre M. Bargemont. Il ne manqua pas de confondre sa cause avec celle de la commune en représentant l'amant de Gabriel comme un bonapartiste et un ennemi du peuple. Le colonel Tudesco tira un carnet de sa poche, y écrivit le nom et l'adresse de Bargemont et s'écria « Ben, si cet homme n'a pas fui comme un lâche, nous en ferons un otage. Je suis l'ami du citoyen délégué à la préfecture de police et je vous dis, vous serez vengé de l'infâme Bargemont. Avez-vous lu le décret sur les otages? Non, ben lisez-le. C'est un monument inimitable de la sagesse populaire. Ben, je m'arrache à regret à votre compagnie, mon jeune ami. Ben, il faut que j'aille découvrir un souterrain que les sœurs de Marie-Joseph ont creusé par méchanceté depuis la prison de Saint-Lazare jusqu'à la maison mère dans le village d'Argenteuil. C'est tout un long souterrain par lequel elle communique avec les traites de Versailles. Allez, venez voir mon domicile à l'état-major, place Vendôme. Salut et fraternité !» Jean paya les consommations du colonel et prit le chemin de sa maison. Les murs étaient tous revêtus d'affiches. Il en lut une à demi couverte par des bulletins de victoire. Article 4. Tous accusés retenus par le verdict du jury d'accusation seront les otages du peuple de Paris. Article 5. Toute exécution d'un prisonnier de guerre ou d'un partisan du gouvernement de la Commune de Paris sera sur le champ, suivi de l'exécution d'un nombre triple des otages retenus en vertu de l'article 4 et qui seront désignés par le sort. » Il fronça le sourcil et songea. Est-ce que j'aurais dénoncé un otage ? Puis il se rassura. Le colonel Tudesco n'était qu'un fantoche et ne pouvait arrêter les gens pour de bon. D'ailleurs, comment croire que Bargemont, chef de service dans un ministère, fût encore à Paris ? Oh, et après tout, s'il lui arrivait malheur, tant pis pour lui. Le surlendemain, un fiacre dont chaque portière laissait passer un canon de fusil s'arrêta devant la boutique du relieur. Les deux gardes nationaux qui en sortirent en trébuchant demandèrent le citoyen Jean Servien, lui remirent un pli cacheté et lui firent signe d'ouvrir la porte toute grande et de les attendre. Ils reparurent bientôt avec un portrait en pied. C'était celui d'une femme de 40 ans environ, avec un visage jaune, très long et beaucoup trop grand pour surmonter le corps infirme et malingre que revêtait une robe noire de façon modeste. Elle avait l'air triste et soumise. Ses yeux gris exprimaient l'humilité et l'effarement, ses joues pendaient et son menton lui descendait jusqu'à la gorge. Cette figure faisait peine à voir. Jean l'examinait sans y pouvoir rattacher aucun souvenir. Il ouvrit la lettre et lut « Commune de Paris, état-major général, ordre de remettre au citoyen Jean Servien le portrait de Madame Bargemont. » Le colonel, commandant les souterrains de la commune, Tudesco. Jean voulut demander aux gardes nationaux ce que cela signifiait, mais déjà le fiacre s'éloignait avec ses deux portières armées de baïonnettes. Et les passants, que rien n'étonnait plus, le suivaient de l'œil un moment. Jean, resté seul en face du portrait de Madame Bargemont, se demandait pourquoi l'inquiétant Tudesco le lui avait envoyé. Le malheureux, se disait-il, aura arrêté Bargemont et pillé son appartement. Madame Bargemont le regardait avec ses vilains yeux de victime. Elle avait l'air si malheureux que Jean fut pris de pitié. « La pauvre femme, » dit-il. Il retourna la toile contre le mur et sortit. Le relieur, revenu à son établi, eut, bien que nullement curieux, l'idée de regarder ce grand tableau qui encadrait la boutique. Il imagina, en se grattant la tête, que ce pouvait bien être la tragédienne aimée de son fils. Il songea qu'il fallut qu'elle fût bien éprise du jeune homme pour lui envoyer un portrait si grand et si richement encadré. Il ne lui trouvait rien de séduisant. « Enfin, se dit-il, elle n'a pas l'air d'une mauvaise femme. » Jean enjamba quelques gardes nationaux ivres et se trouva dans la salle où se tenait le colonel Tudesco. Le colonel, étendu sur un canapé de satin, ronflait à côté d'un poulet froid. Il avait des éperons. Jean le secoua vivement et lui demanda d'où venait ce portrait que lui, Jean, n'avait pas le moins du monde l'intention de garder. Le colonel se réveilla, mais sa langue était épaisse et sa mémoire confuse. Les souterrains le préoccupaient. Il les commandait tous et n'en trouvait aucun. Il y avait là quelque chose qui offensait la rectitude de son esprit. La supérieure des cœurs des sœurs de Marie-Joseph avait refusé de lui livrer le fameux souterrain de Saint-Lazare. Elle a refusé par perversité, peut-être aussi parce qu'il n'existe pas, disait le vieil Italien. Et en vérité, je dis, si je n'étais pas commandant des souterrains de la capitale, je croirais qu'il n'y en a pas. Et les idées lui revenaient peu à peu. Jeune homme, vous avez vu le repos du soldat. Que venez-vous demander aux vieux défenseurs de la liberté ? Bargemont, ce portrait. Ah oui, je sais, je sais. Je me suis rendu chez lui avec 12 hommes pour l'arrêter, mais il était en fuite, le lâche. Et j'ai opéré une perquisition dans son appartement. J'ai vu dans le salon le portrait de Madame Bargemont et j'ai dit « Cette femme est aussi triste que M. Jean Servien. Ils sont tous deux victimes de l'infâme Bargemont. Je les réunirai, ils se consoleront. « Monsieur Servien, goûtez-moi ce cognac qui vient de la cave de votre odieux rival. » Il versa l'eau de vie dans 2 grands verres et dit en riant « Oh, le cognac d'un ennemi sent bon !» Puis il retomba sur le canapé en murmurant « Le repos du soldat !» Il était cramoisi. Jean haussa les épaules et sortit. Il avait à peine ouvert la porte que le vieillard poussa des hurlements dans son sommeil. « Au secours, au secours, on me tue !» Jean Servien vit aussitôt les fédérés de garde se jeter sur lui. Il sentit des canons de revolver sur ses tempes et entendit les fusils qui partaient seuls dans l'antichambre. Le colonel, en proie au délire alcoolique, se tordait dans des convulsions horribles et hurlait « Il m'a tué ! Il m'a tué !»« Il a tué le colonel !» criaient les fédérés. « Il l'a empoisonné ! Conduisez-le devant la cour martiale !»« Fusillez-le de suite ! C'est un assassin envoyé par les Versaillais ! Au dépôt !» Servien niait et se débattait. Il répétait « Mais vous voyez bien qu'il dort et qu'il est ivre !» Il insulte les citoyens. Allô, à la lanterne, fusillez-le. Poussé dans les escaliers à coups de crosse dans les reins, il fut conduit à un officier des fédérés qui signa immédiatement un ordre d'arrestation. Il était au secret dans une cellule du dépôt depuis 16 jours ou 15, il ne savait plus. Les heures passaient sur lui horriblement égales et lentes. Il avait d'abord demandé justice et crié son innocence. Mais il avait compris à la longue que la justice n'avait rien à voir dans son affaire, ni dans celle des prêtres et des gendarmes enfermés dans les mêmes murs. Il ne cherchait plus à raisonner avec la folie furieuse de la commune. Il croyait plus sage de se taire et meilleur d'être oublié, et il craignait bien que tout cela ne finît tragiquement. Une angoisse l'étouffait. Parfois, dans ses rêveries, il voyait un arbre sur un peu de ciel et de grosses larmes lui venaient aux yeux. C'est là, dans cette cellule, qu'il connut les pâles délices du souvenir. Il songeait à son bonhomme de père assis devant l'établi, ou serrant la vis de la presse. Il songeait à la boutique pleine de livres et de cartons, à sa petite chambre où il lisait des voyages le soir, enfin à toutes les choses familières. Et à chaque fois qu'il repassait dans son esprit l'humble et grêle roman de sa vie, il s'indignait d'en voir tous les épisodes dominés, presque remplis, par cet ivrogne, ce mendiant de Tudesco. Cela était vrai pourtant, et qu'il regarda ses études, ses amours, ses périls, il voyait sur tout cela la façon illuminée du vieux mauvais homme. Quelle honte! Il avait vécu bien mal, mais aussi il avait vécu bien peu, le pauvre enfant, et dans sa justice il se sentait pour lui-même plus de pitié que de colère. Il songeait tous les jours, il songeait toutes les heures à Gabrielle, mais comme il sentait pour elle un amour nouveau, c'était une pensée tranquille et tendre, un sentiment désintéressé, un rêve plein de douceur. C'était un songe merveilleusement délicat, comme la solitude et le malheur en forment seuls dans les âmes qu'elles arrachent aux rudesses de la vie commune. L'idée d'une belle vie, pleine d'ombre, vouée tout entière, sans salaire ni retour à la femme aimée de loin, comme la vie du bon curé de campagne est vouée au Dieu qui ne descend point du tabernacle. Son gardien était un bon sous-officier, étonné et choqué de ce qui se passait, et qui, dans l'effondrement général, se cramponnait à la discipline. Il avait pour ses prisonniers une pitié rude et gauche qui se taisait dans le service et que Jean ne devina pas. Jean n'entendait rien aux militaires. Celui-ci, cependant, devenait moins roide et plus expansif à mesure que l'armée de la loi se rapprochait. Ce jour-là, il avait dit aux prisonniers, en clignant de l'œil, « Bon courage, il y aura bientôt du nouveau !» Dans l'après-midi, Jean entendit un bruit lointain de fusillade. Puis, tout à coup, la porte de sa cellule s'ouvrit et il vit une avalanche de prisonniers rouler d'un bout à l'autre du corridor. Le gardien avait ouvert toutes les cellules et crié « Sauf qui peut !» Jean fut lui-même emporté à travers les escaliers jusqu'à la cour du dépôt et précipité la tête la première contre le mur. Quand il se releva de sa chute étourdissante, les prisonniers avaient disparu. Il était seul devant le guichet ouvert. Il sortit. La fusillade crépitait. La Seine coulait sous les lourdes fumées de Paris incendié. Des pantalons rouges paraissaient sur le quai de l'école. Le pont au change était couvert de fédérés. Ne sachant où fuir, il allait rentrer dans la prison. Mais des vengeurs de Lutèce, qui fuyaient lestement, le poussèrent la baïonnette dans les reins vers le pont au change. Une femme, une cantinière, leur criait « Ne le lâchez pas, faites-lui son affaire, c'est un Versaillais !» La petite troupe s'arrêta sur le quai aux fleurs, et Jean fut poussé contre le mur de l'Hôtel Dieu. La cantinière s'agitait devant lui, échevelée sous son képi galonné, ample de poitrine, cambrée des reins, dressée fièrement sur ses jambes fines et fortes, elle avait la puissance d'une magnifique bête féroce. De sa petite bouche toute ronde sortaient des menaces obscènes. Elle agitait un revolver. Les vengeurs de Lutèce, harassés et stupides, regardaient leurs prisonniers pâles contre le mur et se regardaient entre eux. Elle les menaçait, interpellait chacun par quelque surnom ignoble, et passant devant eux avec un balancement de sa croupe puissante, les enveloppait et les pénétrait de son influence. Ils se formèrent en peloton. « Feu !» cria-t-elle. Jean étendit les bras en avant. Deux ou trois coups de feu partirent. Il entendit les balles s'écraser contre le mur. Il n'était pas touché. « Feu! Feu !» répéta la femme avec une obstination d'enfant colère. Elle avait traversé la bataille, cette fille. Elle avait bu à même les tonneaux défoncés, dormi sur le dos, pêle-mêle avec les hommes, au milieu de la place publique rougie par l'incendie. On ne faisait que tuer autour d'elle, et on n'avait encore tué personne pour elle. Elle voulait qu'on lui fusillât quelqu'un à la fin, et elle criait en trépignant « Mais feu! Feu! Feu !» Les fusils s'armaient de nouveau et les canons s'abaissaient. Mais les vengeurs de Lutèce manquaient d'entrain. Leur chef avait disparu. Ils étaient dispersés, ils fuyaient, dégrisés, hébétés. Ils comprenaient que la fête était finie. Ils voulaient bien tout de même fusiller ce bourgeois-là avant d'aller se cacher chacun dans son trou. Jean essaya de dire « Ne me faites pas souffrir !» Mais la voix s'arrêta dans sa gorge. Un des vengeurs regarda du côté de son change et vit les fédérés qui lâchaient pied. Il dit, en se mettant l'arme à l'épaule, « Les foulecors, nom de Dieu !» Ils hésitaient. Quelqu'un s'en allait. Alors la cantinière hurla, « Sacré con! C'est donc moi qui lui ferai son affaire !» Elle se jeta sur Jean Servien, lui cracha au visage, se livra du geste et de la voix à des farces d'une obscénité frénétique et lui mit le canon de revolver sur la tempe. Alors il sentit que tout était fini et il attendit. Pendant une seconde, il revit mille choses. Il revit les allées plantées de vieux arbres où sa tante le menait promener jadis. Il se revit lui-même, petit enfant, heureux et étonné. Il se rappela les châteaux qu'il construisait avec des écorces de platane. Le revolver partit. Jean battit l'air de ses bras et tomba la face en avant. Les hommes l'achevèrent à coups de baïonnette. Puis la femme dansa sur le cadavre en poussant des cris de joie. La bataille se rapprochait. Une fusillade nourrie balaya le quai. La femme partit la dernière. Le corps de Jean Servien resta étendu sur la voie déserte. Son visage avait pris une expression de tranquillité étrange. Il y avait à la tempe un petit trou à peine visible. Du sang et de la boue souillaient ses beaux cheveux qu'une mère avait baisés avec tant d'amour.